écoutez Radio France Internationale, il est 23h en temps universel, 1h ici à Paris, 2h dans la bande de Gaza.
Gali Bonin.
À la une de l'actualité, journée de frappes incessantes à Gaza. Un des derniers hôpitaux encore debout a été bombardé par l'armée israélienne. Nous ferons le point au début de ce journal. Des frappes aussi en Ukraine où l'armée russe a tué au moins 34 civils en pleine rue. L'attaque est survenue dimanche matin dans la ville de Soumy et a provoqué l'indignation chez les alliés occidentaux de Kiev. Après une vingtaine d'années d'existence, la chaîne télévisuelle Al Hura s'apprête à fermer ses portes. Les coupes de Donald Trump auront eu raison de ce média en langue arabe financé par Washington. Victoire massive du chef de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema remporte plus de 90% des voix à l'élection présidentielle. Autre continent, autre élection en Équateur, cette fois le dépouillement des voix est en cours dans le pays miné par la violence des narcotrafiquants. Vous entendrez le rare témoignage d'un pêcheur victime d'extorsion quotidienne de la part des gangs. Les frappes se sont succédées dimanche sur toute la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a rompu le cessez-le-feu il y a près d'un mois avait prévenu qu'elle s'apprêtait à étendre son offensive. Parmi les cibles, l'hôpital Al-Ali de Gazaville, dans le nord de l'enclave. C'était l'un des derniers établissements de santé encore opérationnels. Les précisions de Ryan Verdier.
La frappe a eu lieu en plein milieu de la nuit. Les patients et les familles réfugiés dans l'hôpital Al-Ahli ont eu 20 minutes pour évacuer avant que l'armée israélienne réduise en ruine le dernier hôpital de Gazaville. Les malades et blessés, dont certains dans un état critique, se sont retrouvés dans la rue. Au moins un enfant admis pour une blessure à la tête est décédé faute de soins. Le diocèse anglican de Jérusalem, qui administre l'hôpital, a rapidement condamné l'attaque. Il a appelé en vain la communauté internationale à réagir pour empêcher les attaques menées par Israël contre les institutions humanitaires et médicales. Selon le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, la majorité des hôpitaux de l'enclave sont désormais hors service. L'armée israélienne a détruit plus de 80 centres de santé et 140 ambulances. Les autorités israéliennes empêchent également l'entrée de toute aide humanitaire depuis pratiquement un mois et demi, aggravant chaque jour la pénurie de nourriture et de médicaments. Le territoire est morcelé et plus des deux tiers sont déjà sous contrôle israélien, interdit à la population gazaouie ou sous ordre d'évacuation.
Oriane Verdier. Au Yémen, l'armée américaine accusée d'avoir bombardé la ville de Sanaa, faisant au moins 5 morts. Information communiquée par les rebelles Houthis qui contrôlent la région. Washington n'a pas encore réagi. Plus tôt dans la journée, les Houthis avaient revendiqué 2 tirs de missiles balistiques contre Israël. L'armée israélienne affirme que les projectiles ont vraisemblablement été interceptés en vol. Au Moyen-Orient, toujours, la chaîne de télévision Al Hura vit ses derniers moments en ondes, financée depuis plus de 20 ans par le Congrès américain. Le média en langue arabe était diffusé dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Le PDG de la chaîne accuse l'administration Trump de leur avoir coupé les vivres abruptement et illégalement. Le compte-rendu de notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie.
Al-Hura avait été créé sous l'administration de George Bush en 2004 après l'invasion américaine de l'Irak. Financée par Washington, elle devait contrebalancer le discours de chaînes arabophones accusées par les États-Unis de propagande anti-américaine. Le groupe MBN, maison mère d'Al-Hura, affirme que le média rassemblait une audience de près de 30 millions de personnes par semaine dans 22 pays, mais elle souffrait de la concurrence d'Al Jazeera, Al Arabiya et Sky News Arabiya, financées par les États du Golfe. La chaîne, qui avait déjà fait l'objet de réductions de personnel ces derniers mois et avait dû fermer son antenne en Irak, va donc cesser d'émettre. Le Congrès américain avait approuvé ses subventions mi-mars, mais l'administration Trump, dans sa volonté de réduire les dépenses de l'État, a décidé de mettre fin à tout apport de fonds aux médias financés par le gouvernement. Le site Internet pourrait poursuivre son activité, mais la majorité du personnel a été licencié. Marie-Charlotte Roupie, Bagdad RFI.
Les réactions d'indignation s'accumulent depuis la frappe russe qui a fait 34 morts et une centaine de blessés dans le centre-ville de Soumy. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz dénonce un grave crime de guerre délibéré et voulu. L'italienne Giorgia Meloni parle d'une attaque lâche et horrible. De son côté, l'émissaire américain pour l'Ukraine dénonce une attaque qui dépasse les limites de la décence. Dimanche matin, l'armée russe a bombardé des civils ukrainiens en pleine rue dans une ville du nord-est du pays. Attaque survenue le jour des Rameaux, une célébration chrétienne très suivie en Ukraine. Au Gabon, victoire écrasante du général Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'élection présidentielle, le chef de la transition au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 a remporté plus de 90% des voix, annonce le ministère de l'Intérieur. Il entame un mandat de 7 ans tel que prévu par la nouvelle constitution gabonaise. Le général Brice Oligui Nguema, tombeur de la dynastie Bongo, a quitté ses fonctions militaires pour pouvoir se présenter à l'élection. Et à l'international, le président français Emmanuel Macron l'a félicité pour sa victoire et a salué une étape essentielle vers la fin de la transition politique au Gabon. 23h05 en temps universel, 18h05 à Quito en Équateur où se tient l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus d'une heure. La fin du vote à l'étranger est prévue pour minuit en temps universel. Le scrutin promet d'être serré entre les deux candidats du second tour. Luisa González du parti de gauche tente de ravir la présidence à Daniel Noboa, fils d'un magnat du secteur de la banane à la tête du pays depuis 2023. Au cœur de la campagne, la question des violences liées au narcotrafic. Des pans entiers du pays sont contrôlés par les gangs qui se livrent une bataille sanglante pour exporter la cocaïne en provenance de Colombie. Le port de Guayaquil notamment, les pêcheurs artisanaux sont victimes d'extorsions par le crime organisé. Notre envoyé spécial Raphaël Morand a recueilli le témoignage de l'un d'eux sous couvert d'anonymat.
Les extorsions ont commencé il y a 2 ans. Nous devons payer $20 par semaine pour chaque embarcation. Dans le golfe de Guayaquil, il y a environ 40 communautés de pêcheurs et toutes sont soumises à ce système. Et celui qui refuse de payer, il se fait menacer, séquestrer. Certains collègues se sont même fait assassiner car ils n'ont pas voulu payer cet impôt mafieux. Il y a même des disparus. Les autorités sont au courant, mais elles ferment les yeux. Elles ne sont d'aucune aide alors que la marine est responsable de la baie. Une des communautés de pêcheurs a même dû quitter son village il y a 1 an. Ils n'en pouvaient plus des vols et des intimidations. Et récemment, une autre communauté a été victime de vols. On leur a pris 30 moteurs de bateaux et on leur a volé des affaires dans leur maison.
Le témoignage d'un pêcheur équatorien au micro de Raphaël Morand. 4 jours après leur entrée en vigueur, la Chine appelle les États-Unis à annuler complètement ses droits de douane de 145%. Pékin demande à Washington de faire un grand pas pour corriger ses erreurs. C'est la 2e critique publique de cette mesure en 2 jours. Dans un appel à l'OMC samedi, Pékin assurait que le bras de fer commercial allait nuire aux économies des 2 des pays les plus pauvres de la planète. La 29e session de la Commission des thons de l'océan Indien s'est ouverte dimanche. L'objectif du sommet, faire avancer les négociations pour une pêche plus durable, avec la mise en place notamment de quotas pour éviter la surexploitation. Cette année, c'est la France qui accueille les discussions sur l'île de la Réunion. Et pourtant, selon les ONG, la France est l'un des plus gros acteurs de la pêche industrielle et destructrice pour l'environnement dans la région. Jeanne Richard.
La France et l'Union européenne s'engagent beaucoup pour lutter contre la pêche illégale et pour protéger certaines espèces menacées comme les tortues et les requins prisées par des pays asiatiques. Et la ministre de la Transition écologique française, Agnès Pannier-Runacher, assure aussi se mobiliser pour une pêche au thon durable.
Nous ne voulons pas que les énormes bateaux usines aillent prendre toute la ressource halieutique dans la mer et empêchent des pêcheurs de vivre de leur métier.
Et pourtant, pour Frédéric Lemanac de l'ONG Bloom, la France est loin d'être exemplaire sur la question.
Si on additionne les captures des bateaux français, espagnols, plus ceux qui sont sous capitaux français ou espagnols, mais qui sont pavillonnés aux Seychelles, à Maurice, en Tanzanie, à Oman, etc., c'est quasiment 1/3 de toutes les captures de thon dans l'océan Indien. Donc clairement, il faut que la France et l'Union européenne nettoient devant leur porte avant de nous faire des leçons au monde entier.
Et en coulisses, les discussions sont tendues autour de la mise en place de quotas de pêche pour chaque état de la région.
L'enjeu, il est vraiment d'avoir une répartition juste et équitable des droits de pêche, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, puisqu'on a quelques grandes puissances de pêche, dont l'Union européenne, qui ont un impact démesuré et évidemment inacceptable par rapport à un petit pêcheur marginalisé iranien ou sri-lankais.
Surpêchés pendant des années, les populations de thon de l'océan Indien sont toujours fragiles.
Et c'est parti pour 6 mois d'exposition universelle au Japon. L'édition 2025 a ouvert ses portes dimanche à Osaka. 160 pays et régions sont au rendez-vous des nations qui